Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
Et puis l'UTMB, ben, c'était celle que je voulais vraiment absolument faire, qui m'attirait parce que l'ambiance, c'était quelque chose d'incroyable, mais aussi les paysages, en fait. En fait, ce qui est beau avec ce sport, et c'est pour ça que je fais ça, c'est que c'est une symbiose entre l'effort physique longue durée et la contemplation des beaux paysages. Ce qui m'anime, c'est vraiment ce côté effort physique dans le milieu naturel, dans ces grands espaces où on peut en prendre plein les yeux, et c'est ça qui fait avancer.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'appelle Xavier Thévenard, c'est une légende du trail. Il a gagné toutes les plus grandes courses de l'UTMB et aujourd'hui, il va nous parler également d'environnement et de son engagement pour une planète plus durable. Ça va Xavier ?
Salut, bah merci de l'accueil et puis oui, ça va pas trop mal, merci.
Alors Xavier, peut-être que dans les auditeurs de Trail Story, il y a des gens qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire de quelle région tu viens, quel âge tu as et pourquoi tu es tombé un peu dans l'univers du trail au cours de ta carrière ?
Eh bien voilà, donc moi aujourd'hui j'ai 37 ans, je suis natif des montagnes du Jura, j'ai toujours vécu sur le massif du Jura. C'est toute mon enfance, toute mon adolescence, encore aujourd'hui dans la vie d'adulte. Et comment je suis venu au trail ? Parce qu'en fait à la base je suis fondeur quand on est en ski club de fond, l'été, la pratique la plus courante pour pouvoir s'entraîner en ski de fond, c'est la course à pied, car c'est très similaire avec l'effort cardio. Donc on a toujours fait la course à pied étant gamin, et puis là d'où je viens, les plans d'automne, c'est une petite station de ski au sud du massif du Jura, qui est c'est vraiment très très perdu au milieu de la nature. Et moi j'ai deux frères et une sœur, et notre moyen de déplacement en fait pour aller voir les copains, on était assez livrés à nous-mêmes, assez autonomes, on y allait en marchant, en courant pour aller voir les copains à l'autre bout du plateau de Retort. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a toujours en fait pratiqué un peu la course à pied dès notre plus jeune âge, via le ski de fond, le ski club, et puis pour se déplacer, et puis on est tombé amoureux de cette discipline, quoi.
Super. Et écoute, on voit que tu as mis le pied dans le sport assez jeune finalement, hein, pour te déplacer dans un premier temps et après pour la compétition. Dans le milieu du trail, j'en parlais dans l'introduction, tu es considéré comme une légende du trail, hein. Tu as remporté l'UTMB 3 fois en 2013, 2015 et 2018. Tu as remporté aussi différents formats de courses de l'UTMB, la CCC, l'OCC, la TDS, donc tu les as quasi toutes gagnées. Et dans ces années-là, on t'appelait le petit prince du trail. Comment toi, tu as vécu cette période d'athlète de haut niveau trail ?
J'étais complètement en phase avec ce que je faisais, ça me donnait beaucoup de sens et surtout beaucoup de bonheur et d'épanouissement. En fait, j'ai jamais vu mon sport comme une contrainte. L'entraînement, c'était que du bonheur, et puis c'est ce que je dis souvent, en fait, ce que j'aime moi surtout, c'est m'entraîner plus que la compétition. La compétition, c'est quelque part la cerise, mais j'étais hyper content d'être sur une ligne de départ et me dire, là aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de faire le tour du Mont Blanc, par exemple, plus rapidement possible, en me basant sur mes sensations, en me préparant bien, en faisant les choses avec les manières, et ça m'a amené à gagner, par exemple, 3 fois l'UTMB. Mais le souhait initial, c'était pas de gagner l'UTMB, le souhait, c'était de faire la plus belle performance avec mes armes du moment et avec en essayant de me dépasser moi-même. Mais le résultat final a été jamais une volonté en soi, quoi. C'était vraiment de bien faire les choses, et c'est ce qui m'a amené à gagner 3 fois l'UTMB. Voilà, c'était ma recette.
On voit que tu as remporté différentes courses du parcours de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et qu'est-ce qui te plaisait à l'époque ? C'est l'ambiance, le fait de te challenger sur différents formats de courses, ou tout simplement la beauté des paysages de Chamonix ?
Chacune des courses avait un contexte un peu différent. La CCC, c'était la découverte. J'étais hyper content de pouvoir essayer de faire un 100 km. J'adorais me courir très longtemps, même quand j'étais plus jeune, quand j'étais en section sport-études, ski de fond, biathlon. Je je passais mon temps à courir parce que c'était le moyen de déplacement qui était assez aussi doux, qui permettait de contempler les paysages. Et cette CCC, bah, je l'ai pris comme une découverte. Après l'OCC, je l'ai pris comme une préparation, par exemple, à une course du Mont Fuji. Donc, j'étais complètement détaché de la performance. Et je pense que maintenant, avec le passé, comment je suis arrivé, en fait, à remporter ces courses qui n'étaient pas forcément un but en soi, c'était parce que, en fait, à chaque fois, j'étais détaché vraiment de l'aspect performance qui est assez nuisible pour moi, mais plutôt dans une optique de me dépasser et puis de bien faire les choses. Et ça, c'est retranscrit par des résultats. La TDS, c'est parce que voilà, j'avais envie de découvrir aussi cette course et puis parce que on m'a un peu titillé avec ce grand chelem. Jamais un jour je me serais dit que je ferais ce grand chelem. Bon voilà, c'était la seule course que j'ai pas encore faite. Je voulais la valider. Et bon, voilà, j'ai gagné, c'était très bien, mais c'était pas forcément le souhait sur la ligne de départ. Et puis l'UTMB, ben c'était celle que je voulais vraiment absolument faire, qui m'attirait parce que l'ambiance, c'était quelque chose d'incroyable, mais aussi les paysages, en fait. En fait, ce qui est beau avec ce sport, et c'est pour ça que je fais ça, c'est que c'est une symbiose entre l'effort physique longue durée et la contemplation des beaux paysages. Je ferais jamais de l'ultra trail sur une route ou dans un espace urbanisé, ça aurait aucun sens pour moi. Ce qui m'anime, c'est vraiment ce côté effort physique dans le milieu naturel, dans ces grands espaces où on peut en prendre plein les yeux, et c'est ça qui fait avancer.
Alors, tu as déjà anticipé la question que j'allais te poser, mais c'est très bien. On sait par ton engagement pour la planète que tu as un lien d'âme avec l'environnement. Donc, tu en as parlé un peu de là, ce lien filaire que tu as avec la nature, les paysages et tout. Ça vient d'où ? Ça vient de ton enfance ou tu l'as découvert vraiment en pratiquant l'ultra ?
Ouais, je pense que c'est cultivé pendant l'enfance, durant notre éducation. Après, c'était plus naturel, plus facile pour nous parce que vraiment là où on vivait au plein d'automne, c'était un toit de nature. Donc, en plus, on a la chance, nous, d'être un peu la dernière génération à pas avoir vécu avec le numérique, et du coup bah on jouait comme des enfants avec un milieu naturel à côté, donc à faire des cabanes dans les bois, à jouer aux cowboys et indiens toute la journée dans les lapias, les dolines, les reliefs du massif du Jura. Et je m'en souviens aussi avec mon plus jeune des frères qui fait aussi du trail, de passer du temps à observer des vipères, j'ai essayé d'attraper des dytiques dans les mares, des tétards, on jouait avec cet environnement là et puis on était fan de faune et de flore, et c'est ce qui nous a émerveillés, en fait. Et puis, on a toujours trouvé ça, ces reliefs montagneux, plus ou moins abrupts, harmonieux, comme ça peut être dans le massif du Jura, avec des faibles pentes. Bah, voilà, c'est tout simplement beau. Et puis, je pense qu'on manque pas d'émerveillement. Et l'associer à une pratique sportive, ben, c'est top parce qu'on peut, en fait, dans la pratique du sport, que ça soit en vélo, que ça soit en ski de fond, que ça soit en course à pied, c'est des déplacements qui sont relativement faibles et on peut prendre le temps de contempler les paysages et d'aller découvrir des endroits dans les moindres recoins, et encore plus en course à pied parce que des fois on peut quitter le chemin, traverser une forêt, traverser un champ, et ça donne beaucoup de liberté, et c'est ça qui nous plaisait beaucoup à l'époque quand on était gamin. À courir, je me souviens qu'on se posait à regarder des cartes avec les courbes de niveau, on pouvait s'imaginer le relief en voyant les courbes de niveau, des endroits qu'on connaissait pas, mais je parle de ça quand on avait 12-13 ans, et puis là on se contenait à notre plateau de rotor étant enfant, qui pouvait être assez vaste, et puis après, plus en grandissant, c'était le massif du Jura, et puis après ça a été découvrir d'autres endroits à proximité des Alpes et tout, on a toujours baigné avec ça, et en fait, c'est incroyable l'énergie que peut nous donner, en fait, le milieu naturel, la montagne. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses à aller faire, à découvrir, ne serait-ce que dans les Alpes. Il y a plein de petites vallées qui nous donnent très envie. On dit, voilà, ça doit être magnifique en regardant, pas forcément les cartes, mais peut-être Google Earth ou des choses comme ça. Donc, voilà, ça nous anime toujours, et je pense que ça nous animera jusqu'à la fin de nos jours.
Ok, alors le Jura, t'en as parlé. Toi, t'as eu la chance de pratiquer l'été et l'hiver, parce que t'as aussi beaucoup fait de ski de fond et de biathlon. Notamment, qu'est-ce que ça t'apportait de faire cette saison d'été et cette saison d'hiver un peu ?
Beaucoup de choses. Hein. Je pense que bon, mon premier sport, c'est vraiment le ski de fond, et après la course à pied plutôt. Mais les deux ont toujours été associés. L'hiver, s'il y avait de la neige, c'était le ski. S'il n'y avait pas de neige, bah forcément on courait. Mais là, encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive de passer des hivers s'il y a vraiment de la neige, à pas courir du tout. Et même quand j'étais dans mes plus belles années en trail, ça m'arrivait pas du tout courir l'hiver et de faire que du ski de fond. Et en fait, d'amener des sports un peu différents pour sa discipline de prédilection, je pense que ça a beaucoup d'avantages, notamment sur la préservation des articulations, de la fibre musculaire. On est sur un sport doux avec le ski de fond, on n'a pas les chocs. Donc on arrive à se régénérer durant une saison tout en s'améliorant au niveau de la forme physique, parce que le ski de fond c'est assez exigeant parce qu'on fait travailler tous les muscles du haut du corps et puis ça développe beaucoup la VO2 aussi, c'est très 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 complet. Et ça apporte plein de choses au niveau de l'endurance de force aussi, de la coordination, de l'équilibre, de la proprio. Voilà, aujourd'hui, moi, j'encadre des stages de ski de fond l'hiver. Et pour un public plutôt de trailer qui serait désireux d'apprendre le ski de fond et puis de le mettre dans leur entraînement pour varier les activités. Et je pense que c'est vraiment une belle piste pour progresser, s'améliorer en trail, quoi.
Des sports complémentaires qui sont bien à jumeler en fonction des saisons, donc ça c'est top. On va revenir un peu maintenant dans le milieu du trail. Donc juste question par rapport à l'évolution du trail et comment le trail a évolué sur les 10-15 dernières années. Comment tu perçois, toi, cet impact de l'homme sur l'environnement? Est-ce que tu trouves que le trail évolue dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent? Ou est-ce que tu te dis, bah, finalement, c'est l'évolution normale de ce sport?
On peut le voir de différentes manières. Je pense qu'il y a du positif comme du négatif. La bonne chose, je pense que c'est le fait d'avoir démocratisé un petit peu cette discipline qui a un bel engouement et que les gens s'intéressent à ça. Ça les fait sortir de chez eux. Ils vont pratiquer une activité physique. Il n'y a rien de tel pour sa santé, c'est largement prouvé. Et si les gens aussi sont aptes à mettre des baskets aux pieds pour aller courir à côté de chez eux, ben ça va leur apporter aussi pas mal de notions de goût de l'effort. Et une fois qu'on a le goût de l'effort, c'est une vraie valeur parce que on arrive à relever pas mal de petits tracas du quotidien au travers, grâce au sport, quoi. Et je pense que dans les années qui vont arriver aussi avec les conséquences du dérèglement climatique, on sera amené à s'adapter à beaucoup de plus en plus de situations. Et puis des fois, faut mettre la carapace. Et si on a ces notions de goût de l'effort, quoi, on va pouvoir passer au-dessus des contraintes liées au dérèglement climatique. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Après, il y a toujours un peu des travers aussi. Aujourd'hui, on peut pratiquer le trail de façon très sobre en achetant une paire de baskets, un short, et puis d'aller courir des kilomètres et des kilomètres. Et puis on peut aussi rentrer vraiment dans la société de consommation pure et dure en voyageant dans les quatre coins du monde si on veut aller faire une course, en s'équipant vraiment de la tête aux pieds toutes les années avec le dernier cri. Et voilà, après chacun est libre de faire ses choix, comment consommer le trail. Voilà, et l'idée c'est de tendre vers plus de sobriété, comme on le sait aujourd'hui, pour essayer d'atténuer les effets délétères du dérèglement climatique, quoi.
Alors tu es engagé justement pour l'environnement, notamment dans des collectifs d'athlètes. Prochainement, tu vas participer à une semaine de la transition écologique du sport, à Chamonix, avec différents athlètes et différents organismes. C'est quoi ton moteur pour participer à ce genre d'événement? Je sais aussi que tu fais la fresque du climat.
L'idée d'être dans ces collectifs, c'est justement de regrouper beaucoup de sportifs de plein d'horizons différents, de disciplines différentes, de porter un message collectivement. Aujourd'hui, on sait que le sportif dans la société, il est bien vu, il est assez audible, et je m'en rends compte à mon échelle puisque j'ai porté des messages et j'ai pris des mesures assez fortes en termes d'écologie, de transition écologique, et j'ai été écouté, contrairement et malheureusement on va dire à des scientifiques qui eux ont vraiment la connaissance là-dessus, mais on se rend compte que malheureusement eux ils sont pas écoutés. Et l'idée de ces collectifs de Sport for the Future qu'on va faire la semaine prochaine, c'est de sensibiliser des sportifs qui sont assez qu'on n'a pas toutes les connaissances sur les enjeux écologiques d'aujourd'hui et de demain, en faisant une fresque du climat. Moi, je suis animateur de la fresque du climat, donc c'est de les sensibiliser. Et puis après, porter un message collectivement en disant, de toute façon, personne peut être irréprochable dans ce monde mondialisé. On émet tous des gaz à effet de serre. Par contre, on peut progresser sur certains axes. On n'est pas moralisateur ni jugeant parce que personne n'est parfait, de toute façon. Et puis, d'essayer de de dire bah voilà aujourd'hui bah, pour respecter les accords de Paris, pour diminuer le réchauffement planétaire, on doit être à tant de CO2 par an par personne. Moi je fais du sport de haut niveau, j'ai des fois un calendrier qui est lourd avec des contraintes de déplacement, etc. Et je suis à tant de tonnes, donc je suis pas forcément bon pour respecter les accords de Paris. Mais par contre, voici quels sont mes axes de progression. Et en mettant de la transparence et en expliquant tout ça, bah déjà, ça va sensibiliser sa communauté et on va être écouté parce que le sportif est généralement écouté dans la société. Et c'est de faire comprendre et de faire effet boule de neige à plusieurs pour essayer de faire tendre vers plus de sobriété, quoi.
Ok. Et alors, du coup, les athlètes, est-ce que tu les sens prêts aujourd'hui et concernés? Notamment pour il y a des sujets qui doivent les titiller hein, comme les circuits internationaux hein, on sait tous que l'UTMB World Series parfois est mondial avec des courses un peu à droite à gauche. Est-ce que tu sens que eux, ça les titille ou comment tu le gères ça avec eux?
On peut rencontrer de tout hein, dans n'importe quel sport. Il y a des sportifs bah, qui sont pas forcément intéressés au sujet, d'autres qui sont plus ou moins engagés. Après, bah, la tendance est d'embarquer énormément de monde avec nous parce qu'on connaît les conséquences, on connaît les rapports du GIEC, vers quoi on va. Donc, c'est d'amener un maximum de personnes avec nous. Et justement, le message, c'est pas pointer du doigt quelqu'un, de pas être jugeant ni moralisateur, parce qu'une fois qu'on a braqué des personnes, on n'arrive plus à les emmener avec nous. Donc, certes, il y en a qui ne sont pas aptes à parler de ces sujets-là, mais on essaye de les convaincre en y allant par petites touches, et j'espère que tôt ou tard, on sera un plus grand nombre. Aujourd'hui, j'aurais du mal à savoir combien il y a de personnes qui sont vraiment sensibles et qui font vraiment des efforts parmi tous les sportifs et d'autres et qui ne fait pas d'efforts. C'est un peu dur à dire, mais j'ai envie de dire que c'est un sujet qui quand même revient assez souvent, les problèmes du dérèglement climatique, on le voit hein, chaque été, les canicules, les feux de forêt, etc. C'est un sujet qui revient souvent et je pense que dans les futures années, on sera de plus en plus de monde convaincu et qu'on veut vraiment du changement, plus qu'une prise de conscience qui est un réel passage à l'acte. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne prise de conscience. Pour autant, le passage à l'acte, il se fait plus ou moins parce qu'en fait, on n'a pas les notions, les ordres de grandeur. Qu'est-ce qui va détériorer plus l'environnement? Qu'est-ce qui va émettre plus de gaz à effet de serre? Et une fois qu'on sensibilise au travers d'une fresque du climat, on a ces ordres de grandeur, mais après, on sait sur quoi, quel levier actionner pour diminuer son empreinte carbone. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Climate Sport Camp ou Sport for the Future. Voilà, nos collectifs pour essayer de démocratiser un peu cette parole liée au dérèglement climatique.
Alors, tu parlais de prise de conscience, donc on sent que la conscience, elle évolue. Est-ce que toi, là, tout de suite, pour les trailers qui nous écoutent ou les traileuses qui nous écoutent, tu as déjà quelques actions concrètes s'ils doivent agir là où ça impacte le plus?
Bah, c'est ce qu'on voit dans la fresque du climat. En fait, les premiers gestes à faire individuellement à son échelle, si on veut déjà diminuer son empreinte carbone, la première chose à faire, c'est diminuer drastiquement l'avion. Après, c'est de végétaliser son alimentation. Après, bah, y a toutes les catégories de la consommation, du logement, etc. Mais la première chose à faire, c'est les deux premières choses, en gros, c'est diminuer ce transport, notamment l'avion, la voiture, un peu moins de voiture, et puis après, végétaliser son alimentation. Donc, après, on peut amener plus d'ordre de grandeur au travers d'une fresque du climat, mais c'est un peu les premiers gestes, quoi.
Le transport et l'alimentation en priorité, et puis aussi le renouvellement de l'équipement peut être minimisé, on n'est pas obligé de changer son matériel. Pour revenir un peu au trail, toi, actuellement, tu es un peu en stand-by de carrière de haut niveau puisque tu as la maladie de Lyme. Donc, on ne va pas en parler plus que ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet du podcast. Mais par rapport à tes rêves de trail et ce que tu as aimé faire, est-ce que tu pourrais nous parler de ta belle émotion trail? C'est quoi le moment le plus fort que tu as vécu dans ta vie de trailer?
Le moment le plus fort, il y en a plein. C'est difficile de mettre un moment plus fort qu'un autre. Après, c'est vrai que chaque victoire à Chamonix était très forte. Je pense que les victoires UTMB, c'est particulièrement fort, intense au niveau émotion. Je dirais que celle de 2018, je mettrais peut-être un cran au-dessus de celle de 2015 et 2013 parce que Il y a eu une mésaventure juste avant sur le mois avant à la Hard Rock où je m'étais fait sortir de la course après 145 km de course et 21h alors que j'étais en tête avec 2 heures d'avance pour une petite gorgée d'eau ou par inadvertance et manque de lucidité qui m'a valu une disqualification parce que j'ai fait un ravitaillement hors zone. Et bah, j'étais avec beaucoup de déception à ce moment-là, d'incompréhension, de frustration, de colère. Et puis tout ça s'est apaisé les semaines qui sont arrivées après. Puis j'avais comme objectif de faire donc l'UTMB 2018. Et puis bon, bah voilà, un UTMB c'est jamais gagné d'avance, mais moi je suis parti prudemment. Je suis arrivé au 100e kilomètre, j'ai rejoint un Américain, Zach Miller. On a fait un bout de chemin ensemble. Ensuite, il était un peu moins bien, donc je suis parti devant. Et puis, bon, bah, je finis par gagner la course. Mais à la fin, j'effaçais une histoire, une mauvaise mésaventure avec l'histoire de la Hard Rock. Et puis, c'était une petite revanche. Et puis, je me suis dit, il y a quand même une justice. Et celle-ci, bah voilà, l'histoire qu'il y a eu juste avant, plus les émotions avec tous les spectateurs, plus le partage avec la famille, les proches, etc. C'était hyper intense. Et donc, je dirais que l'UTMB 2018 était particulièrement savoureux.
Alors là, on parlait de fortes émotions. Si demain, on oublie la maladie et que tu rêvais de refaire une course, est-ce que tu as déjà imaginé laquelle ça serait et comment tu auras envie de l'appréhender?
Ouais, déjà, je pense qu'un jour, si je suis sur le départ d'un ultra, quel qu'il soit, ça sera une très belle victoire. Et je pense que j'aurai déjà les émotions sur la ligne de départ avant d'être sur la ligne d'arrivée, parce que pour moi, ça voudra dire beaucoup de choses. Et je rêve de ce moment-là et je me l'imagine déjà. Je me l'imagine parce qu'on a besoin d'avoir des rêves et puis de les atteindre. Donc, des fois, sur mes sorties, je me dis, ouais, ça serait trop fort de pouvoir être sur une ligne de départ. Ça voudrait dire tellement de choses et je ferai vraiment tout pour y arriver. Et là, juste d'en parler, ça met les émotions aussi. Mais peu importe une course autour de Chamonix, parce que j'affectionne particulièrement Chamonix. Donc, que ça soit TDS, CCC, CCC, du coup, c'est Courmayeur le départ. Mais ouais, UTMB, j'aimerais tellement pouvoir revivre un ultra. Même, j'ai envie de dire, peu importe le résultat, la perf qui en suit, mais juste de pouvoir faire un ultra trail et puis de courir avec du plaisir. Bon, pas tout le temps, forcément, il y a des moments où c'est un peu dur, surtout quand on est en fin de parcours, mais un maximum de plaisir et puis de partager ce moment-là avec les proches, la famille, puis les spectateurs. Ça me fait très envie et ouais, je ferai tout en tout cas pour arriver à cette ligne de départ. Ouais.
En tout cas, je sens l'émotion dans la salle et je me dis que ça va arriver. Je sais pas, je le sens bien. Je sens que ça va arriver parce que tu en as tellement envie et ça va se faire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on te souhaite. Toi, par rapport à l'évolution du trail, si on devait imaginer le trail dans 10 ans, ça serait quoi ton plus beau rêve pour le trail et ton sport, entre guillemets?
Ce serait un trail qui respecte la planète, parce que de toute façon, on n'a pas de planète B. Hein. Il faut vraiment qu'on prenne conscience tous collectivement qu'il faut arriver à diminuer ce dérèglement climatique pour que ça soit encore vivable pour nous, êtres humains. Parce que la planète, elle continuera d'exister. Notre espèce, c'est pas si sûr si on continue d'avoir des actions comme on les a aujourd'hui. Donc un trail respectueux de l'environnement avec moins de transport, des déplacements doux, parce que on sait qu'aujourd'hui sur un événement sportif, c'est l'empreinte carbone est liée surtout au transport, donc d'arriver à diminuer ce domaine-là. Et puis peut-être plus de sobriété. Il faut tous qu'on réfléchisse, qu'on a besoin de tous les gadgets qui nous entourent aujourd'hui pour avoir beaucoup de bonheur en course à pied. C'est pas si sûr. Moi, j'ai toujours couru depuis gamin. Je me vois comment j'étais quand j'étais ado, j'avais pas de monde connecté, j'avais une paire de chaussures que j'essayais de rafistoler quand elle était très trouée. Et est-ce que pour autant je m'éclatais pas? Non, en fait, je m'éclatais tout autant. Je me souviens, mes premières montres, c'était une montre avec un cadran et puis des aiguilles. Je regardais à quelle heure je partais, je regardais à quelle heure je notais, puis ensuite je notais sur mon carnet d'entraînement au stylo, et puis ça me donnait une base de données à la suite avec je posais des additions pour savoir mon nombre d'heures. Est-ce que pour autant ça, de plus l'avoir et de que ça soit informatisé, moi aussi j'ai une montre connectée et tout ça, ça me remplit un peu plus de bonheur? Je crois pas en fait. C'est parce qu'aujourd'hui on vit avec ce monde du numérique, donc c'est comme ça. Mais en revenant à des choses peut-être plus sobres, en fait, on s'aperçoit que on n'est pas pour autant moins malheureux. Et la question à se poser, c'est aujourd'hui on n'a jamais eu autant de confort dans notre société, et pourtant on voit qu'il y a une hausse incroyable des burn-out, du mal-être dans notre société. Donc en fait, est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses superficielles? En fait, non. En fait, ce qui est important, c'est les contacts humains, c'est de passer du temps dehors, d'échanger, de faire ce qu'on aime, donner du sens à notre existence. Et puis tout ce qui va à côté, je pense que c'est pas forcément très important.
Alors, il y a un aspect, donc en tout cas, là, tu m'inspires, et il y a quelque chose que tu vas développer, je crois, dans les prochains mois ou les prochaines années, c'est les stages de trail, notamment pour échanger et partager avec des gens qui veulent s'entraîner au trail ou peut-être au ski de fond, je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as envie de faire avec ces gens que tu vas croiser pendant ces stages?
Alors, depuis quelques temps maintenant, avec un ami Thomas, on organise des stages de trail, aussi avec mon plus jeune frère, qui est lui aussi moniteur de ski de fond, et puis qui est sur la formation accompagnateur en moyenne montagne. Donc là, ça fait depuis 2 ans maintenant. Et puis l'idée, c'est de faire partager une expérience autour de l'ultra trail sur un peu avec nos convictions, notre philosophie de vie. Donc des choses assez simples, mais on fait des interventions le soir sur la nutrition, sur les préférences motrices. On parle de la gestion des allures, et l'idée c'est de faire des sorties, de parler de l'utilisation des bâtons, comment s'économiser, etc. De passer du bon temps, échanger, de faire découvrir le massif du Jura, parler de la faune, la flore, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui nous émerveille. Ça c'est sur nos stages trail, c'est basé sur les alpages du Mont d'Or à la petite échelle. Et puis on fait la même chose d'hiver, mais sur le ski de fond, où l'idée c'est de faire progresser des stagiaires qui sont plutôt trailers à la base et qui seraient désireux d'apprendre le ski de fond, qui sont complètement débutants et ou pas complètement débutants. On fait des groupes de niveau et puis de progresser et de s'amuser avec cette discipline pour l'intégrer à leur entraînement et de rompre la monotonie de la course à pied. On croit beaucoup au sport croisé, en fait, et les bénéfices que ça peut apporter pour sa discipline de prédilection. Donc ça, voilà, il y a aujourd'hui, pour s'inscrire à un des stages qu'on propose, en fait, j'ai un lien dans ma bio sur Instagram où tout est indiqué. Et puis là, on essaye de les développer un petit peu parce qu'on commence à avoir un peu de la fidélité, donc faire venir d'autres intervenants, d'autres parcours, d'aller sur des autres lieux, etc. Donc voilà, ça se développe gentiment et ça va continuer un peu à se développer. Mais toujours en restant, en fait, nous, l'idée, c'est de faire de la qualité en termes d'échange aussi. Et on n'est pas à avoir énormément de monde, petit groupe, mais qu'on se marre, qu'on puisse échanger tous, chacun, et passer du bon temps en montagne, quoi.
Alors, ouais, j'avais noté les mots que tu m'avais dit, c'était simplicité, authenticité, les valeurs du trail et le respect de la nature et de la faune qui nous entoure, la biodiversité. Donc ça, c'est très inspirant, en tout cas, pour les gens qui veulent faire un stage de trail différent et vraiment dans l'alignement avec l'histoire du trail. Vous pouvez aller rejoindre Xavier dans ses stages. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les trailers et les traileuses qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? J'aimerais leur dire qu'il faut bien évaluer la chance qu'on a de pouvoir faire du sport, pratiquer n'importe quelle discipline, parce que on est tous vulnérables, et ça, je l'ai appris avec la maladie. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. En fait, je me dis, en fait, chaque jour qui passe, il faut le profiter à fond. Et puis, si on a la possibilité de faire du sport comme on le veut et avec les sensations qu'on a et le plaisir, ouais, il faut, faut vraiment prendre conscience de ce chance qu'on a là. Et aujourd'hui, en plus, on vit en, bah, là, en Europe, en tout cas, hormis en Ukraine où il y a des conflits, mais je veux dire, on n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête. On a une chance incroyable d'avoir cet environnement là autour. Et moi, bon, je pense que c'est important de bien en avoir conscience et pouvoir profiter de chaque instant, quoi. Voilà. Se faire plaisir avant tout, quoi, et je pense que c'est la clé.
Merci, c'était Xavier Thévenard. Je suis ravi d'avoir enfin eu Xavier dans le podcast Trail Story. Ça faisait très longtemps que je te suivais dans ton aventure, à la fois coureur, mais aussi tout ce que tu fais en dehors, sur notamment ton engagement pour la planète. J'espère que ça a inspiré beaucoup de trailers, et en tout cas, c'était très inspirant. Merci Xavier, et puis à très bientôt sur les chemins ou ailleurs.
Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Nous terminons avec une musique choisie par Xavier Thévenard, avec la chanson de Yann Tiersen, Pern. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles aventures trail. À très bientôt.